Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chose commune. Aujourd'hui, pas de côté littéraire. Simon Héros est installé en Val-de-Loire Tourangeau, où il consacre l'essentiel de son temps à la bande dessinée. Le registre de ses parutions va de la fiction contemporaine à la chronique adolescente, sans oublier le récit de voyage. Les élèves de première TCVA, technicien conseil vente en animalerie, du lycée horticole de Blois, ont eu le plaisir de rencontrer l'auteur de bande dessinée début janvier. Sa BD, Sermilic, étudiée cette année en classe avec leur professeur Anna Daprato, retrace le parcours de Max, un Français qui a tout quitté il y a plus de 30 ans pour s'installer au Groenland, une région du monde aussi rude que fascinante. Artiste sensible à l'ethnologie, à la nature et aux relations humaines interculturelles, Simon Héros est également l'auteur de la superbe BD L'Oasis. Les élèves ont pu échanger librement avec l'artiste, son parcours d'auteur, ses voyages, la vie des Inuits, ses sources d'inspiration et son quotidien. Un grand merci à Cyclic Centre Val-de-Loire pour l'organisation de cette rencontre, au dispositif lycéen apprenti livre et auteur d'aujourd'hui, ainsi qu'aux élèves pour leur participation. On leur laisse la parole.
On va faire une petite présentation alors. Donc vous avez eu entre les mains Sermilic, c'est le seul album que vous ayez lu de ce que j'ai fait, je suppose. Voilà, donc c'est un des derniers que j'ai fait, il est sorti en 2022 je crois, mais ça fait plus de 20 ans que je fais de la bande dessinée. C'est une activité à part entière, qui n'est pas forcément très connue. Mais voilà, moi je suis venu à ça parce que j'étais passionné par le fait de raconter des histoires. Et moi-même en tant que lecteur, en tant qu'amateur, également en tant qu'amateur de dessin, de peinture évidemment. Donc avant Sermilic, qui est assez récent, il y a eu d'autres livres dans des genres très différents. Il y a eu par exemple des fictions. Moi je suis essentiellement venu à la bande dessinée par la fiction, donc on raconte des histoires qu'on invente, mais aussi bien de temps en temps on peut me faire des propositions, et là c'est une ethnographe qui est venue me chercher pour me demander si ça m'intéresserait de la suivre en Namibie avec elle pour aller rencontrer les Himba. Je sais pas si vous connaissez les Himba, c'est un peuple qui vit aux confins de la Namibie, là, à la frontière avec l'Angola, dans des zones tellement arides qu'il n'y a qu'eux qui réussissent à vivre sur place. Ils sont éleveurs, mais c'est des conditions très, 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 très dures. Il y a peu d'eau, il y a peu d'herbe. Et ils sont passionnants, voilà, à tel point qu'on en a fait 300 pages. On peut les faire circuler, si vous voulez. Comme ça, vous pouvez jeter un petit coup d'œil en même temps. J'ai mes là, et comme ça, vous pouvez vous les passer et feuilleter. Mais il y a eu également, juste avant Sermilic, L'Oasis. Alors celui-ci, peut-être que le contenu vous parlera un peu plus, étant donné vos spécialités. Donc ça parle du retour de la vie dans mon jardin. Donc là c'était plus de la fiction, là je me suis mis en scène, c'est moi sur la couverture, c'est mon jardin. Mais je m'étais posé la question de la fiction pour parler de ça, mais ça m'a paru plus pertinent d'utiliser le mode du témoignage en quelque sorte. Parce que je me suis rendu compte qu'au bout de 10 années de jardinage dans mon petit jardin de ville sur les bords de Loire, il s'était passé énormément de choses. Ce qui me désespérait un peu quand on est arrivé, quand on a acheté cette maison, c'est que le jardin ne contenait absolument aucune vie. Il y avait vraiment une haie de thuya, deux vieux cerisiers, une pelouse, et on voyait guère d'oiseaux, guère d'insectes. C'était vraiment très un peu sinistre, quoi. Moi, ce qui m'intéresse dans la nature, c'est ce qui vit, quoi. C'est une fleur, c'est bien, mais s'il y a une belle abeille dessus, c'est encore mieux. Et au fur et à mesure qu'on a fait des choses dans ce jardin, on a vu la vie arriver. Et ça, j'avais trouvé ça tellement passionnant qu'à force d'entendre dire que la biodiversité est menacée, en danger, que les espèces disparaissent, moi, j'ai voulu témoigner du fait que la biodiversité, c'est super facile de la raviver, de la réanimer. C'est à la portée de tout le monde et il n'y a même pas besoin ni d'avoir fait de grandes études, ni d'avoir beaucoup d'argent, ni d'avoir beaucoup de terrain. Il suffit d'un petit jardin, grand comme la moitié de la pièce, et on peut faire des miracles. Donc voilà, moi c'est de ça que j'ai témoigné dans cet album, qui d'ailleurs aujourd'hui est de tous mes livres celui qui a le mieux marché, qui a fait que j'ai eu plein d'autres propositions par la suite. Par exemple, un livre jeunesse sur le jardin. Bon, je ne vais pas me spécialiser non plus, mais voilà, un petit album sur l'initiation d'un enfant par sa mamie au jardin. Ou bien un éditeur qui m'a carrément proposé d'adapter un essai écrit par le directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Je ne sais pas si vous connaissez l'endroit. Le Jardin des Plantes à Paris, avec la grande galerie, la ménagerie. Voilà, c'est un lieu que moi j'ai toujours trouvé magique. Donc c'était assez extraordinaire pour moi que le directeur de ce musée me laisse adapter son livre sur la crise de la biodiversité. Donc voilà, ça donnait lieu à cet album, qui est de 2023, enfin voilà, c'est un des plus récents. Mais entre-temps, il y a eu Sermilik, donc tous les livres sont un petit peu différents, chacun a son histoire. Et Sermilik, c'est un ami qui connaissait bien Max, donc Max, vous voyez qui c'est, hein, vous avez lu le livre, et qui trouvait son histoire tellement incroyable qu'il rêvait que Max raconte son histoire dans un album de bande dessinée. Cet ami est aussi passionné de bande dessinée. Et quand il a fini par convaincre Max de recevoir un auteur de bande dessinée pour essayer de voir s'il n'y avait pas quelque chose à faire, il m'a proposé de m'emmener là-bas pour le rencontrer. Donc après un petit peu de réflexion quand même, j'ai dit oui, et il m'a emmené là-bas, on l'a rencontré. Sur place, j'avais un carnet de croquis, bien sûr, j'ai fait plein de croquis, j'ai pris plein de notes, j'ai posé plein de questions à Max. Et c'est un voyage qui m'a bien passionné et qui a fait que, en rentrant, je me suis plongé dans ce récit. Et 2 ans plus tard, parce qu'il y a quand même 2 ans de travail pour arriver à ce livre, ça a donné lieu à Sermilik. Donc voilà, en gros, et là, j'ai des nouveaux projets. Il y a toujours un livre en cours. Là, en l'occurrence, ça pourra peut-être vous intéresser aussi quand il sortira, c'est l'éditeur de l'Oasis et Sermilik, Dargo, qui m'a proposé de faire un livre sur l'eau avec Eric Orsena, qui est un écrivain passionné par l'eau, qui a déjà écrit des livres sur l'eau. Alors quand on dit l'eau, là en l'occurrence, c'est plutôt les rivières, les fleuves, et même l'accès à l'eau potable, les maladies liées à l'eau, tout ça, enfin... Voilà. On ne parle pas de la mer, mais vraiment de l'eau terrestre. Et je me plonge là-dedans, j'y connaissais rien, mais je trouve ça passionnant. Voilà. Donc je vais essayer de restituer ça au mieux pour le prochain album. Et ça peut aussi vous intéresser, au printemps, je viens de terminer l'histoire des jardins. C'est vrai que je ne pensais pas forcément que les jardins avaient une histoire. Mais c'est un éditeur qui est venu me trouver, un éditeur qui s'est un peu spécialisé dans les bandes dessinées d'histoire de quelque chose, d'un sujet précis. Ils ont toute une collection qu'on voit souvent en librairie, sur des présentoirs. Là, il y a l'histoire des animaux, l'histoire de Jérusalem, l'histoire de l'argent, du vin, de la bière, de la mythologie grecque, de la littérature française. Enfin voilà, il y a toute une grosse collection. Et là, ils m'avaient demandé de faire l'histoire des jardins. Donc moi, j'ai fini les pages et la coloriste là était en train de travailler, de cravacher pour être dans les temps, pour que ça sorte au printemps. Voilà.
Quelle est l'œuvre que vous avez préféré faire ?
Alors ça, c'est pas une question facile, parce que tous les projets sont différents. À chaque fois, il y a une envie, il y a une idée différente. Donc à chaque fois, au moment où on est sur un livre, c'est ça qui nous passionne à ce moment-là, quoi. Je peux avoir des chouchous un petit peu, mais bon, Sermilik, j'ai passé 2 ans dessus. Si j'avais dû m'ennuyer mortellement, je me serais pas lancé dans l'aventure, quoi. Donc à chaque fois, je me suis intéressé à la question, le temps qu'il a fallu pour aller au bout. Parmi mes chouchous, il y aurait l'Empire des hauts murs. Celui-ci, d'ailleurs, j'ai une suite dans les tiroirs, faudra que je la reprenne un jour. Après, je suis content de chacun pour des raisons particulières et spécifiques à chaque livre. Il y en a, parfois je me dis, j'aurais pu peut-être... Ou certains, je ne suis pas forcément content de la couverture ou moins content de la collaboration avec l'éditeur. En fait, c'est très variable. Y a des auteurs de bandes dessinées qui font des séries. Donc, c'est toujours chez le même éditeur, c'est toujours le même format. Donc, chaque année, ils savent ce qu'ils vont faire. En fait, ils vont faire grosso modo la même chose que l'année dernière, mais avec une nouvelle histoire. Moi, j'aime bien changer complètement de projet d'un livre à l'autre et de me réadapter à ce projet à chaque fois. Donc, voilà, c'est mon histoire particulière, mais ça fait que... Je ne vis que des aventures différentes à chaque nouveau livre. Et... Bon, j'ai peut-être un petit coup de cœur pour l'Oasis aussi, parce que c'est personnel, c'est mon jardin. Puis j'ai toujours aimé les insectes, les oiseaux. Donc je me suis fait plaisir à dessiner plein de bestioles dedans. Mais bon, voilà, je ne saurais pas dire si j'ai vraiment des préférés. C'est un peu comme si j'avais plein d'enfants. Voilà, quand on a des enfants, on n'a pas le droit d'avoir des préférés. On les aime tous.
Quel parcours vous avez fait pour faire ce métier-là ?
À l'époque où je m'intéressais à ça, il n'y avait pas de parcours tout défini. J'ai fait 3 ans d'école de Beaux-Arts à Caen, en Normandie. Donc l'école de Beaux-Arts, si vous voulez dessiner, c'est le pire des endroits. Parce qu'il faut être dans le concept, dans l'idée, dans le, À la limite, on peut ne rien faire, mais si on sait bien en parler, ça passe. Et si on dessine, les profs vont vous dire que ce que vous faites, c'est anecdotique ou illustratif, et c'est vraiment la pire des insultes. Donc, faut surtout pas parler de bande dessinée. C'est vraiment le, voilà, le dernier endroit. Mais néanmoins, j'avais des cours de gravure, de dessin, de sculpture et d'histoire de l'art. C'était passionnant. Mais fallait garder cette passion vraiment de côté. Par contre, au bout de 3 ans de Beaux-Arts, j'ai pu rentrer en équivalence aux arts décoratifs à Strasbourg, en option illustration. Et là, on pouvait enfin parler de dessin. C'était l'orientation. De dessin, de bande dessinée. Tous les camarades qui venaient de partout en France étaient tous passionnés. On faisait ensemble des fanzines. On s'auto-éditait, on allait sur les festivals. C'était passionnant. Mais aujourd'hui, si vous vouliez faire de la bande dessinée, ce serait plus facile. Il y a pas mal d'écoles, il y a pas mal d'options un peu partout en France. Il y a une école à Lyon, à Angoulême. Il y en a par correspondance aussi. Enfin, voilà, c'est plus. Voilà. Mais il y a 20 ans, fallait être autodidacte. Et d'une manière générale, on l'est toujours. Parce qu'il y a tellement de codes à maîtriser dans la bande dessinée que c'est uniquement en pratiquant qu'on déjoue les obstacles et qu'on arrive à faire quelque chose de fluide. On ne peut pas tout apprendre dans un cours, en fait.
Avez-vous toujours voulu faire ce métier-là ?
Je pense qu'assez longtemps, je me suis posé la question. À l'âge que vous avez, peut-être que je l'entrevoyais, mais un peu comme un rêve impossible. Ce qui fait que j'ai d'abord commencé à essayer de faire des études plus classiques, on va dire. À l'époque particulièrement, c'était quand même pas évident de se dire « j'ai envie de faire de la bande dessinée ». Donc, ça a longtemps été plutôt un rêve un peu secret, un peu incertain, mais voilà. Mais j'ai toujours eu une espèce de base de passion quand même pour animer tout ça. Ouais.
Pourquoi vous avez choisi les BD et pas un roman ou,
Je pense qu'on fait tous en fonction de ce qu'on est profondément. Et moi, je me voyais raconter des histoires plus avec le dessin et l'écrit que seulement avec l'écrit ou qu'avec l'image animée ou que je suis passionné par le cinéma, mais par ailleurs, je me vois pas faire du cinéma. Ce qui est formidable avec la bande dessinée, c'est qu'on est tout seul chez soi et on peut imaginer l'univers qu'on veut. On peut tout faire, on peut tout faire surgir de sa planche de dessin en toute liberté. Je crois que c'est ça qui m'intéressait aussi beaucoup. Avec personne pour nous dire oui, d'accord, on va se lancer dans le projet, on vous attribue le financement. Ou voilà, le cinéma, il y a toute une espèce de logistique, comme ça c'est des équipes, c'est quand même beaucoup plus lourd. Il faut que le projet soit validé, financé. En bande dessinée, on peut être tout seul chez soi avec un crayon et du papier et on peut se lancer dans le projet qu'on veut. Moi, j'aimais bien cette espèce de légèreté de procédé. Et puis, en tant que lecteur, j'aime ça aussi. Je suis pas assez écrivain pour être écrivain. Je me serais pas vu faire des pièces de théâtre. Non, voilà. C'était mon mode d'expression à moi. Donc, il n'y a pas de raison objective, en fait. C'est vraiment très subjectif. C'est comme ça que moi, je voulais m'exprimer.
Ok. Et même avec la légèreté du procédé pour faire une BD, est-ce qu'il y a eu des complications qu'aujourd'hui vous regrettez ou que vous auriez pu changer ? Enfin, aujourd'hui que maintenant vous avez un œil extérieur sur la BD, des choses que vous avez pas, que vous avez dit aujourd'hui que vous auriez pu faire d'une autre façon ?
Avec le recul, les premiers albums, les plus vieux albums, oui, je commence à me dire. Je vois que j'ai évolué. Ça, si je devais le refaire autrement, aujourd'hui, je le referais autrement. Oui, c'est vrai que le temps passant, on voit aussi qu'on évolue et que on gagne un peu en assurance, en maturité, en savoir-faire. Après, j'ai jamais fini d'apprendre. Hein. C'est un métier éternel. Je serai jamais à la retraite. Il n'y a pas un jour où je me dirai bon. Et il n'y a pas non plus un niveau à atteindre. On peut toujours faire plus. Différemment, autrement, voire mieux. Quand Sermilik est sorti, je me suis dit, ouais, finalement, j'aurais peut-être dû le dessiner à l'encre de Chine et au pinceau. J'ai fait au crayon. Est-ce que c'était la bonne idée ? Je sais pas. Si je devais le refaire aujourd'hui, peut-être que je le ferais plutôt à l'encre de Chine. En couleur, mais à l'encre de Chine quand même. Parfois, il y a certains métiers, il faut appliquer des règles, suivre des recettes. Moi, il n'y a pas de loi, en fait, pour faire un livre. On n'est pas obligé de le faire. Personne ne vous attend pour ce livre-là. On peut toujours le faire différemment. Donc, il faut chercher de sorte que, quand le livre sorte, on puisse se dire je pense que j'ai trouvé la bonne formule et la bonne façon de le faire. Et je ne suis pas certain qu'il y aurait eu une autre façon de le faire mieux. Mais c'est du travail. Et du déchet aussi, parce qu'on cherche, on gomme, on refait, on réécrit, on enlève des pages, on jette beaucoup. Quand le livre sort, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais on ne voit pas tout ce qui a été évacué avant, refait, transformé. Voilà, il y a tout un travail.
Du coup, Cermique et l'Oasis, c'est deux thèmes qui se rejoignent un peu par rapport à... Enfin, ça rejoint un peu vers la nature. Et même le livre sur le jardin que vous nous avez proposé tout à l'heure, c'était fait... parce que vous aimez beaucoup... Enfin, ce thème-là, c'est fait exprès ou... Enfin, je sais pas.
Ben en fait, c'est pas fait exprès parce qu'il n'y a pas forcément de préméditation. Si je me lance sur un sujet de livre, je vais sentir qu'il y a quelque chose qui m'appelle dans ce sujet, mais je ne saurais pas forcément pourquoi. Par contre, avec le recul, je remarque que Rujimba, Sermilik, on est un peu sur le même genre de thématique. C'est l'humain dans un contexte naturel, environnemental, précis, et qui dépendent de cet environnement-là. Cet environnement leur est vital, c'est leur source de vie, mais aussi leur source de mort s'ils le gèrent mal. Et finalement, dans l'Oasis, ben, on rejoint un petit peu le propos, parce que c'est l'humain dans un environnement. Bon, c'est beaucoup plus local, hein, c'est un Français avec son jardin, mais c'est le vivant quand même. Moi, ma vie ne dépend pas de mon jardin, mais ça pourrait, ceci dit. On peut aussi avoir son potager et cultiver ses plantes. Mais finalement, il y a cette thématique commune de comment on vit en lien avec la nature, par la nature, dans la nature, quelle espèce d'équilibre on essaye d'entretenir entre la façon dont nous, on va chercher à vivre et le milieu naturel qui nous environne. Finalement, au moins dans ces trois livres-là, voire aussi le Jardin extraordinaire, on retrouve cette thématique commune, ouais, dans des endroits qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Mais très bien observé. Mais tu vois, moi, il a fallu plusieurs livres pour que je me rende compte qu'il y avait cette thématique commune. Je ne me disais pas, avant de faire le livre, je vais faire ce livre parce que je veux parler de ça. Je ne savais pas trop. C'était confus. Mais je pense que je fais des livres aussi parce que je me pose des questions. Et peut-être que les livres, une fois qu'ils sont sortis, ils m'aident à trouver un petit peu la réponse. Voir, ce n'est pas forcément moi qui la trouve, mais c'est le fait de rencontrer des lecteurs qui me renvoient quelque chose... que j'ai mis dedans et auquel enfin des choses auxquelles j'avais pas pensé quoi. Donc c'est ça qui m'apporte finalement. Je pose la question en faisant le livre et j'ai des réponses là aujourd'hui en vous rencontrant par exemple ou en séance de dédicace, en salon, en festival, en librairie ou en discutant avec des gens tout simplement.
Qu'est-ce qui vous a plu dans la création de la BD Sermilik?
Alors déjà, à l'origine de la création de la BD, il y avait un voyage. Donc il y avait une rencontre, la rencontre avec Max, qui est quand même un individu assez singulier. Le voyage, qui était absolument passionnant. Je n'ai jamais rêvé d'aller là-bas. Moi, j'aime avoir chaud, j'aime les pays chauds. Et je ne m'étais jamais projeté dans le fait d'aller au Groenland. Mais je n'ai pas regretté, parce que ça a été très très intense. J'ai vraiment énormément aimé être sur place là-bas, rencontrer Max, son village, les gens qui vivent autour de chez lui, rencontrer ses chiens, rencontrer une baleine à bosse en kayak sur le fjord, etc. Donc c'était vraiment une rencontre très très forte. Donc déjà à l'origine, il y avait ce plaisir inattendu, et ces moments très forts. Et puis après, il y a aussi le fait que j'ai rencontré une communauté, les Inuits qui vivent dans ce village-là. Et je me suis dit qu'on ne les connaissait pas forcément bien en France, qu'ils n'étaient pas forcément bien représentés dans des livres ou des films, et que peut-être je pouvais apporter ma petite pierre à l'édifice en les présentant par le biais de l'histoire de Max, en décrivant son mode de vie, comment on vit là-bas, sur la côte est du Groenland, autour de ce fjord. Et oui, ça m'a vraiment intéressé de me plonger dans ce mode de vie. D'essayer de le comprendre déjà, parce que quand on arrive là-bas, on comprend pas forcément tout. Et j'ai eu besoin de me faire expliquer beaucoup de choses. Et puis après, en tant que dessinateur, alors sur place, j'ai eu énormément de plaisir à faire des croquis, même si j'avais parfois un petit peu la main gelée. Mais c'était que des choses que je n'avais jamais dessinées de ma vie. Les paysages, les personnes, les maisons, les chiens. On croise pas forcément ce genre de chiens par chez nous. Voilà. Sur les 200 pages de Sermilik, je me suis plongé dans ce défi de ne dessiner que des choses que je ne connaissais pas jusqu'ici, que j'avais jamais dessinées. Et donc c'était nouveau. De la même façon, la palette, la gamme de couleurs, je sortais de l'Oasis, donc on était que dans des verts, voilà, on est dans la verdure. Et là, sur les 200 pages de Sermilic, il n'y a pas une seule fois la couleur verte, on est que dans des bleus, des violets, des ombres sur la neige, etc. Et ça, ça m'a plu, de faire quelque chose de complètement différent, et d'essayer de rendre compte de cette vie là-bas, en étant le plus respectueux possible et le plus fidèle possible, parce qu'il ne s'agissait pas de les trahir ou de raconter des âneries. On parle de vrais gens qui vivent leur vraie vie. Voilà, je pense que c'est un peu tout ça qui m'a intéressé dans Sermilic. Et c'était évidemment une expérience unique qui ne s'est pas reproduite jusqu'ici et qui se reproduira probablement jamais. Donc ouais, j'ai bien aimé l'expérience.
Et est-ce que vous avez mangé des phoques ?
Oui, oui, oui.
Et vous avez fait de la chasse ?
Non, j'ai pas, personnellement, non, je suis pas chasseur et j'ai pas demandé spécialement à chasser. Puis bon, je me verrai pas me retrouver avec un fusil entre les mains. Et c'est une affaire de spécialistes. En l'occurrence, Max, évidemment, depuis tout le temps qu'il y est, a appris à chasser le phoque. J'ai pas de sympathie particulière pour la chasse. Mais j'ai découvert que la chasse qui était pratiquée là-bas, bon, c'est différent, c'est une chasse vivrière, hein, c'est pour se nourrir, ou nourrir les chiens. Parce que quand on a, je sais plus combien il y en a, mais une dizaine de chiens, bah, ça mange, il faut les nourrir. Alors il peut peut-être acheter des croquettes à la boutique, mais d'abord il n'y en a pas forcément toujours, puis les chiens ils veulent peut-être manger autre chose. Et ils sont un peu habitués à manger de la viande ou du poisson, donc voilà, il faut chasser le phoque pour les nourrir. Après, c'est des territoires absolument gigantesques, pour une communauté répartie sur 7 ou 8 communes qui plafonne à 5000 habitants. Donc c'est très très peu d'humains, chasseurs ou pêcheurs, sur de vastes étendues. Donc je pense que la biodiversité locale n'est pas très menacée. Tout ce qui est chassé ou pêché est consommé. Je l'ai bien vu sur place. Quand les chiens sont nourris avec les phoques, il ne reste rien. C'est vraiment... Puis le phoque, on utilise la peau. On peut faire des lanières de cuir pour tout l'artisanat, alors moins maintenant, évidemment, ils s'habillent voilà, comme on pourrait s'habiller si on allait ici à Decathlon. Mais traditionnellement, les bottes, les tuniques ou le fouet pour les chiens, c'est en lanière de cuir de phoque, etc. Mais en fait, manger des produits frais là-bas, c'est manger le produit de la chasse ou de la pêche. Ici, on a le potager, là-bas, il n'y en a pas. Le seul élément végétal qu'ils peuvent consommer sur place, c'est des espèces de myrtilles, les camarines, qui peuvent aller cueillir l'été, je crois, mais c'est vraiment absolument la seule ressource végétale du Groenland. Ça paraît fou, mais c'est leur réalité. Donc voilà, c'est chasse et pêche. Et évidemment, dans tous les congélateurs de toutes les maisons là-bas, il y a du phoque, éventuellement du narval, éventuellement de l'orque, de l'ours blanc... ou de la baleine, mais après, à part le phoque, que ce soit narval, ours blanc ou baleine, il y a des quotas. Hein. Ils vont pas n'importe qui s'amuse pas à chasser n'importe comment non plus. Et heureusement. Mais la question se pose même pas. Là-bas, tout le monde mange du phoque. C'est le plat de base. Chez nous, ça va être la baguette. Là-bas, c'est le phoque. Voilà. Faut s'adapter. Si on est végétarien, il ne faut pas aller au Groenland, ce n'est pas possible, on ne pourra pas tenir. Quoi. Ou alors il faut amener ses provisions, mais bon, ça n'a pas de sens. Ou si on est végétarien, il faut faire une entorse à ce moment-là. Mais oui, c'est très bon, mais on n'a pas du tout l'habitude de ce type de viande en France. C'est une viande de carnassier, donc c'est une viande très forte. Et c'est assez addictif. Et quand je suis rentré en France, tout était fade. Même tout ce qu'on mange quotidiennement qui a du goût, que je trouve très goûteux aujourd'hui, j'ai trouvé ça totalement fade en rentrant. Même là-bas, on avait ramené une bouteille de vin comme ça pour trinquer avec Max. Mais le vin, c'était insipide par rapport à la puissance de la viande de phoque ou à la peau d'orque. Et a fortiori par rapport aux tripes de phoque séchées, ça c'est le truc le plus fort que j'ai jamais mangé de ma vie. Ça arrache tout. Je sais pas pourquoi, comment, mais c'était incroyablement fort. Donc, mais on s'habitue très vite, bizarrement. Particulièrement aux phoques séchés. Voilà. Mais par ailleurs, je respecte les animaux et j'aime les animaux. Hein. Je suis pas un fou furieux de la gâchette et de la... Ma fille a un peu plus que votre âge, elle est en train de devenir végétarienne et c'est pas exclu qu'elle nous entraîne dans son sillage. Mais de la même façon, vous avez pu voir Rujimba. Ben, vous avez vu que c'est un peuple qui vit dans des zones tellement arides que rien ne pousse. Donc finalement, c'est un peu la même histoire, mais avec des histoires de territoires hostiles très différents l'un de l'autre. Il y en a un, c'est le froid, l'autre, c'est la chaleur extrême. Et donc c'est un peuple qui vide son élevage et qui donc mange ses chèvres et ses vaches de la même façon. Donc ils peuvent acheter, quand ils sont à proximité d'une boutique, de la farine de maïs. Mais voilà, ça ne va pas être très varié. Ça va être soit de la farine de maïs, soit de la viande de chèvre. La gastronomie est assez limitée, mais bon, ils sont dans des zones assez compliquées.
Et est-ce qu'il y a des animaux qu'il ne faut surtout pas chasser au Groenland ? Enfin, des espèces protégées ?
J'ai pas entendu parler d'espèces protégées.
Animaux qui sont... Enfin, je ne sais pas comment dire. Qu'il ne faut surtout pas toucher, qu'il ne faut surtout pas attaquer.
J'ai pas entendu parler d'animaux à éviter, donc comme ça, je saurais pas te répondre. Il y a une forte biodiversité, mais j'ai l'impression qu'un peu tout peut faire gibier. Mais alors, dans des proportions raisonnables, hein, quand même, malgré tout. Je me rappelle pas avoir entendu parler d'animal soit tabou, soit interdit, soit protégé. Ça fait un peu un choc quand on arrive là-bas. Hein. On s'imagine que l'ours polaire est protégé. En fait, non, potentiellement, c'est un gibier. Rare, mais quand même. Donc non, a priori. Et même le requin du Groenland, qui est un animal très très spécial, qui peut vivre très très longtemps. Je crois qu'ils ont trouvé des individus qui ont vécu plus de 200 ans. C'est complètement dément. Ça veut dire qu'ils ont connu des temps qui nous paraissent extrêmement éloignés. Ils vivent vraiment dans les profondeurs. C'est des poissons extrêmement lents, mais apparemment on peut les pêcher aussi et les manger aussi, jusqu'en Islande il me semble. Donc non, je crois pas qu'il y ait d'animaux protégés. En même temps, l'humain au Groenland ne représente pas une menace considérable pour la biodiversité, parce qu'il est très peu nombreux. C'est aussi bête que ça, mais je crois qu'au total il doit y avoir 55 ou 57 000 habitants au Groenland, mais c'est l'équivalent d'une une moyenne ville de France, sur un territoire grand comme 5 fois la France. Donc c'est complètement disproportionné. Alors après, voilà, je ne suis pas pour autant devenu spécialiste du Groenland, donc je ne peux pas répondre à cette question. Je ne pense pas qu'ils vont manger tout non plus. Il y a ce qu'ils peuvent chasser. Le caribou sur la côte ouest, apparemment, c'est un gibier très apprécié, mais il n'y en a pas à l'est.
Et vous n'avez pas mangé d'ours ou quoi que ce soit ?
Non, non, non.
Okay. J'ai une question encore. C'est est-ce que, du coup, cette expérience unique que vous avez, du coup, qui vous a donc permis de voir le monde un peu autrement... Enfin, est-ce que ça vous a permis de voir aujourd'hui le monde autrement qu'avant ? Avant que vous puissiez faire ces expériences, de pouvoir aller au Groenland ou même pour l'autre livre, vous êtes allé voir d'autres tribus ?
Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Oui, non, c'est vrai que ces voyages-là, on n'en ressort pas tout à fait le même. C'est très enrichissant. Parce qu'on est la même humanité, mais on découvre à quelques petits milliers de kilomètres ou centaines de kilomètres d'ici un mode de vie humain qui est normal pour là-bas, mais complètement différent d'une autre. Et pour autant, on a plein de choses en commun, même si on ne vit pas du tout de la même manière. Enfin, ça donne un peu le tournis, en fait, de réaliser que, ah oui, on peut être humain et vivre comme ça là-bas, avec si peu de choses, en étant semi-nomade, en se déplaçant, en n'étant pas propriétaire d'un lieu, mais juste d'un troupeau. Enfin, ça fait vraiment réfléchir et ça ouvre un peu l'esprit sur d'autres manières de vivre, d'autres possibilités. Et le fait que tout ce qui nous paraît normal et évident ici aujourd'hui peut être mis en question et on peut le réfléchir aussi et imaginer que les choses soient différentes finalement et faire d'autres choix. Donc c'est extrêmement enrichissant pour ça. Oui.
Et du coup, ça vous a permis de faire d'autres choix aujourd'hui que vous n'auriez pas fait avant de découvrir ces expériences ou pas ? Ou ça a pas...
D'une manière générale, je crois que les voyages que j'ai faits, dont ceux-là, m'ont changé au point de pouvoir avoir un mode de vie plus souple, plus ouvert, plus résilient aujourd'hui, mais de pouvoir aussi mieux comprendre des choses et mieux en parler sur d'autres livres aussi. Donc c'est pas comme si j'avais eu un déclic qui m'avait fait tout changer en rentrant. Ça pourrait, mais c'est plus en douceur, c'est plus l'accumulation de divers éléments comme ça qui font que je pense que je suis globalement enrichi de toutes ces expériences. Mais je pourrais pas dire je fais ça aujourd'hui dans ma vie parce que j'ai vécu ça au Groenland ou en Namibie. C'est une espèce d'ensemble comme ça, indémêlable. Mais c'est, clairement, oui, c'est très enrichissant, ouais, c'est sûr. Et je vous souhaite de vivre des expériences aussi enrichissantes. Ça apporte énormément.
Est-ce que vous avez déjà eu des blocages quand vous dessinez? Est-ce que vous avez déjà eu une perte d'inspiration
Oui, il y a des hauts et des bas. Ouais, c'est sûr. C'est pas toujours facile. Quand on démarre, on est encouragé par personne parce que on est attendu par personne. Personne nous connaît. On n'a pas encore de livre. Donc, faut se persuader que le livre qu'on est en train de faire peut éventuellement intéresser un jour des lecteurs. Mais tant qu'on n'a pas fait un premier livre, puis un deuxième, et qu'on a commencé à rencontrer des lecteurs, c'est compliqué d'avoir la confiance, en fait. Donc, il y a des moments, en effet, où la confiance est un peu en berne. Et quant à l'inspiration, bah, ça dépend, ouais. Ces derniers temps, ça va beaucoup mieux, parce que depuis que l'Oasis est sorti, je reçois pas mal de propositions. Donc, tous les derniers livres que j'ai faits, dans l'ensemble, c'est des propositions qu'on m'a faites. On est venu me chercher pour. Donc, j'avais juste à le sentir et dire oui ou pas le sentir et dire non, ce qui est assez confortable. Tous les livres qui ont précédé, c'est l'idée, l'envie venait de moi. Parfois, c'est arrivé en effet que je commence un projet, je travaille des mois et des mois dessus, puis je les laisse tomber parce que finalement, je me rends compte que j'aboutis à rien. Donc, il faut accepter aussi de temps en temps qu'il y a du déchet. Tout ce que je fais au quotidien ne se retrouve pas un jour publié. Les livres qui sortent, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Et il y a toute la phase de recherche, de création, tous les livres qu'on lit pour se documenter, tous les échanges qu'on a, par exemple avec Solène, avec Max, qu'on ne retrouve pas dans les livres. Il y a une grosse phase comme ça de fabrication. Voilà, le livre, vous le lisez en 2 heures. Moi, j'ai mis 2 ans à le faire. Donc il y a un delta quand même assez important. Mais c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Hein. Je ne peux pas faire un livre en 2 mois, ou alors il sera complètement bâclé et illisible. Mais oui, il y a des hauts et des bas. C'est pas facile tous les jours. Mais ce qui tient, c'est la passion. J'ai choisi ça parce que j'en avais vraiment envie. Personne ne m'a demandé de faire de la bande dessinée. C'est vraiment moi qui le veux depuis le début, quoi. C'est un vrai choix. Oui, la passion toute seule, ça suffit pas. Et beaucoup de désir et beaucoup de travail aussi. Et accepter que ça prenne beaucoup de temps, qu'il faille refaire. Que de temps en temps, un éditeur nous dise « Bon, là, ton livre, c'est peut-être intéressant, mais je le sens pas comme ça, ou ce passage-là est mal rythmé, il faudrait que tu le refasses. » Mais une fois qu'on met ça de côté, qu'on passe outre et qu'on se dit « l'éditrice a peut-être raison, je vais peut-être suivre son conseil », on repart finalement sur un nouveau livre, et au final, je me suis rendu compte qu'elle avait probablement raison, et que le livre fini est probablement mieux sous cette forme que la forme que j'avais imaginée au départ. Donc c'est aussi de temps en temps subir des critiques, les accepter, les mettre en œuvre. Parfois, ça peut m'arriver de réaliser que j'ai travaillé 10 jours pour rien, parce que j'ai tout mis, pas à la poubelle, mais enfin j'ai rien gardé de tout ce que j'avais fait ces 10 derniers jours. Donc de temps en temps, c'est un petit peu, voilà, faut se motiver, quoi. Faut rester embarqué dans l'aventure.
Et de toutes vos œuvres, c'est laquelle qui a été la plus longue à réaliser ?
Tous ces derniers temps là, c'est un peu à égalité entre Le Vivant à Vif, Sermilik et Rujimba. En gros, ça tourne autour de 2 ans, mais comme parfois il y a plusieurs projets en parallèle, c'est pas facile de savoir exactement combien de temps on met, mais ouais, en gros 2 ans. Puis parfois ça peut m'arriver de commencer un projet, en attendant la réponse je continue un autre. Parfois il y en a plusieurs en parallèle comme ça, donc c'est des temporalités qui se chevauchent. Mais 2 ans, c'est déjà pas mal. J'aimerais ne pas avoir à dépasser 2 années. Parce que faut déjà garder l'énergie pour 2 années. 3 ans, il faudrait vraiment que ce soit un projet très très spécial pour que je me laisse embarquer 3 ans sur un livre. Mais bon, tout est possible. Le petit dernier, la grande parenthèse, j'ai dû mettre 6 mois. Alors un peu d'arrache-pied, mais je l'ai fait en 6 mois. Donc parfois, c'est plus rapide quand même. L'Oasis, peut-être 1 an. Il est venu assez vite. Mais en disant 1 an, je compte peut-être pas d'autres projets avant qui ont avorté, que j'ai pas amené jusqu'au bout. Donc dans ce que je fais aujourd'hui, je traîne aussi tout ce que j'ai fait derrière, qui m'aide à avancer plus vite.
Et ça n'impacte pas votre vie privée, de créer toutes ces bandes dessinées d'arrache-pied ?
Si, ça peut, un peu. En fait, je travaille chez moi. Donc dans la maison dans laquelle on vit à 4. Donc évidemment, c'est intégré à la vie de famille, mais aussi bien, ça peut empiéter sur la vie de famille aussi. De temps en temps, c'est un peu ma femme qui me dit « Bon, là, on va partir en vacances quand même, parce que sinon, moi, je peux travailler comme ça, je m'arrête pas. » C'est la difficulté de la liberté, c'est merveilleux, mais c'est aussi la liberté de ne jamais s'arrêter de travailler, et c'est pas évident de se mettre des freins, ou de se dire « Bon, je travaille tant d'heures par jour. » Le mois d'octobre, là, pour terminer l'histoire des jardins, il fallait tellement que j'avance que j'ai dû travailler 7 jours sur 7 tout le mois, de 8h à minuit, en gros tous les jours. Donc évidemment, on ne peut pas tenir ce genre de rythme très très longtemps, mais pour la vie de famille, évidemment, c'est un peu limite. Mais je ne sais pas combien d'heures ça faisait par semaine, mais 80, 90, c'était un peu... Ouais, c'est trop, il ne faut pas le faire. Mais parfois, quand il faut vraiment que ça avance, eh bien, faut faire ce qu'il faut, quoi. Mais oui, ça peut avoir des impacts un petit peu. Ça peut avoir aussi des avantages. Je suis toujours à la maison, donc mes enfants me voient. C'est pas comme si je faisais ces mêmes heures de travail, je les faisais dans un bureau loin de chez moi et que je les voyais jamais, quoi. C'est quand même intégré à la vie de la maison et c'est quand même bien. Je suis pas dans un bureau isolé de la maison, complètement au bout, au fond du jardin. C'est quasiment la première pièce dans laquelle on rentre, donc... Même si je travaille du lever au coucher, je suis quand même là. Je suis pas ailleurs. Donc c'est une espèce d'équilibre comme ça qu'on a réussi à trouver, qu'il faut parfois réajuster de temps en temps, parce que c'est pas toujours évident à vivre.
Et du coup, quand vous faites ce genre de livre, ça veut dire que vous prenez des notes toute la journée, quand, par exemple, c'est Hermilic et tout, que vous êtes allé là-bas, vous avez pris des notes tous les jours en permanence ?
Absolument, oui. Mais croquis et notes écrites, tout le temps, en fait, dès que... Alors après, quand il m'emmène faire une excursion en kayak, là j'ai trop peur de faire un mauvais geste et de laisser tomber le kayak dans le fjord, et donc je ne l'ai pas sorti. Mais on a pu s'arrêter pour pique-niquer sur un iceberg. Bon, là j'ai tout de suite sorti pour dessiner. Donc oui, tout le temps. Alors d'autres peut-être auraient enregistré, fait des sortes d'interviews. Moi j'ai préféré tout noter. Et puis parfois ça permet aussi de faire des schémas. Par exemple, s'il m'explique quelque chose, pour bien que je le visualise, je fais le schéma, je dessine ce qu'il me raconte. Comme ça, je le comprends encore mieux qu'avec des mots, si c'est un peu compliqué à visualiser. Donc oui, j'ai toujours des carnets sur moi et je prends beaucoup de notes tout le temps. Ouais. C'est vrai que c'est une pratique à la maison qui a besoin d'être enrichie aussi par l'extérieur, par le croquis, par la prise de notes, par l'observation. Voilà, l'oasis, j'aurais pas pu le faire si je m'étais pas mis en tête d'observer ce qui vivait dans mon jardin. Et je vous suggère de le faire dans vos environnements respectifs. À partir du moment où on commence, c'est passionnant et on ne s'arrête jamais. Depuis que l'Oasis est sorti, c'est-à-dire il y a 5 ans, je continue à prendre des notes sur ce qui m'intéresse et ce que je découvre dans mon jardin. Il n'est pas immense, hein, il fait 1000 m². J'ai dû remplir 300 pages de carnet en 5 ans, simplement de choses que j'observe en allant nourrir les poules ou jardiner un peu. C'est infini, mais il faut le vouloir, il faut vouloir le voir en fait. On peut très bien passer à côté sans rien voir, mais dès lors qu'on commence à fouiller un peu, à regarder sous les feuilles, à jardiner soi-même et à connaître le nom des créatures, bah c'est un fil qu'on n'aura jamais fini de tirer et qu'on n'aura jamais fini de nous intéresser. Là récemment, je me suis mis aux araignées, les mal-aimées, mais injustement, et je découvre à quel point mon jardin regorge de plein d'espèces d'araignées passionnantes. Et bien apprendre à les reconnaître, à connaître leur nom, à savoir qu'une telle, c'est celle-ci, etc. Ben c'est génial. Voilà, moi, c'est mon jardin qui m'apprend des choses. Autant que moi, je pratique des choses dans mon jardin, le jardin, en retour, m'enseigne tout ce qu'il a à m'apprendre. Donc je trouve ça assez passionnant comme échange.
Et vous avez déjà eu des projets en cours que vous avez abandonnés pendant le projet, parce que ça vous plaisait plus ou...
Oui, ça a pu m'arriver. Voire même à la fin, après avoir tout fini, de me rendre compte que bon, ouais, ce projet-là, peut-être qu'il n'aurait pas d'avenir. Mais l'avenir d'un livre n'est jamais écrit à l'avance. Un truel étrange, là, qui est sous l'Oasis, j'ai mis 2 ans avant de trouver l'éditeur. Un premier me l'avait accepté, puis refusé, puis etc., etc. Et pourtant, c'est un livre qui a eu un prix au festival de BD d'Angoulême. Donc, on ne sait jamais trop. Mais oui, ça m'est déjà arrivé c'est jamais très agréable, hein, de se lancer dans un projet, d'y croire jusqu'au bout, finalement non, peut-être que c'est pas si intéressant que ça, je vais laisser tomber, je vais partir sur autre chose. Donc il y a des moments de creux comme ça qui sont pas forcément très agréables à vivre, mais je crains qu'il soit un peu incontournable. On ne peut pas être tout le temps dans une dynamique telle que tout ce qu'on a à faire doit trouver son résultat sous forme de livre et en librairie un jour, quoi.
Vos proches sont-ils fiers de vous, enfin de vos aventures?
Oui, ouais, ça va. Ouais. De plus en plus, on va dire, parce que c'est vrai qu'au début, c'est un peu incertain, on ne sait pas trop. Est-ce que tu te lances là-dedans? Bon, d'accord, on t'accompagne. Est-ce que ça va marcher? Qu'est-ce que ça va donner? Mais oui, si, je suis plutôt soutenu, ça va.
Est-ce que quand vous êtes rentré en France, vous avez comparé votre expérience à un documentaire télé?
Par rapport au Groenland, pas particulièrement? Non, avant d'y aller, j'avais vu un film étonnant qui est à moitié une fiction, à moitié un documentaire, qui a été tourné dans le village même où vit Max. Ça s'appelle Une année polaire, je crois. Une année polaire. Depuis que le livre est sorti, je m'intéresse toujours au Groenland. Et pas plus tard que cette semaine, j'ai vu sur Arte, en replay, un documentaire sur le Groenland. Bah, je ne sais pas si vous avez entendu, mais on reparle ces derniers temps du Groenland, pour des raisons un peu particulières. Donc je continue de m'y intéresser, mais j'ai pas eu l'occasion de comparer ce que j'ai vécu avec d'autres documentaires ou autres. Parce qu'il faut dire aussi que c'est assez spécifique quand même. C'est la côte Est, c'est ce village. C'est un Français expatrié depuis 30 ans. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents en fait. Et même sur la côte Ouest, qui est l'essentiel de la population groenlandaise, ils vivent déjà d'une manière un peu plus occidentalisée. C'est pas tout à fait la même chose. Et la plupart des documentaires se passent à l'Ouest. J'en ai vu, mais je m'y retrouvais pas en fait. Je voyais bien que c'était pas tout à fait la même chose. Mais depuis que j'y suis allé, oui, ça continue de m'intéresser, c'est certain.
Est-ce que dans chaque histoire que vous avez écrite, il y a un message qui est transmis dans toutes dans toutes vos histoires?
Bonne question. Il n'y a pas forcément la volonté de faire passer un message, en général. Voire il faut se garder d'essayer de faire passer un message parce qu'on peut oublier le fil de son récit si vraiment on se concentre sur ce qu'on veut faire passer. Il y a toujours certainement quelque chose un peu en sous-texte qui transparaît, pas forcément toujours conscient, mais depuis quelques années, et particulièrement depuis Rougimba, l'Oasis, il y a quand même la volonté de transmettre quelque chose dans l'Oasis. Vraiment, la base du projet, c'était dire. Oui, la biodiversité, on peut tous faire quelque chose, c'est facile, c'est à la portée de tout le monde. Regardez, moi j'ai fait ça marche. Dans Sermilik, alors là, dans Sermilik, c'est différent, c'est Max sur place. Je lui ai demandé, bon, si je fais le livre, est-ce que toi, il y a quelque chose que tu voudrais faire passer à travers ce livre? Il m'a dit, oui, une chose, il y avait vraiment une seule chose qui l'intéressait, c'était de faire comprendre qu'il faut croire en ses rêves. Lui, il a eu ce rêve-là, il l'a réalisé. Il s'est réalisé dans ce rêve. C'était un rêve fou, mais il allait jusqu'au bout. Personne n'y croyait. Enfin, tout le monde a cherché à le décourager. Enfin, et il avait toutes les chances de rentrer au bout de quelques mois, après avoir compris que c'était un échec complet de vouloir s'intégrer là-bas. Mais ça a marché, il s'est accroché. Aujourd'hui, il y est toujours, 30, 40 ans presque après. Et voilà, c'est vraiment ça son message, c'est il faut croire en ses rêves. Et bah, j'espère que j'ai à peu près réussi à transmettre cette idée dans ce récit, mais j'aimais bien ce message qu'il voulait faire passer à travers son récit. Je trouvais que c'était porteur d'espoir, de belles valeurs et que j'aime bien l'idée qu'on a le droit d'avoir des rêves un peu fous et que bah voilà, quelques années plus tard, ils étaient peut-être pas si fous que ça en fait. Mais dans les fictions, plus généralement dans les fictions, j'évite de chercher à faire passer un message. Il y a des thématiques. En ressortir avec une impression de quelque chose, mais voilà, c'est pas des slogans les livres quoi en général. Le vivant à vif un petit peu plus quand même parce que là on parle de la crise de la biodiversité. En l'occurrence, je me mettais au service d'un essai donc d'un auteur qui avait déjà écrit le livre, mais il y a quand même un message quoi.
Est-ce que vous avez déjà envie de tout abandonner, votre métier et tout ça?
Ça m'a traversé l'esprit particulièrement après Rougimba. Où je me disais, tiens, là, je vais avoir 40 ans, ça fait 15 ans que je fais des livres, ça se passe bien, mais c'est pas fou. J'avais d'autres envies, peut-être, ça pourrait être le moment de les retrouver. Et puis finalement, sur ces entrefaites, je fais l'Oasis, qui marche très bien et qui enclenche tout un mécanisme. Du coup, là, aujourd'hui, je me pose plus la question. Mais c'est vrai qu'à un moment, je me suis demandé si j'allais pas pour pas me repartir dans d'autres études. On peut toujours continuer à dessiner à côté, mais c'est vrai que je me suis demandé. Bon, j'ai échappé.
Est-ce que c'était compliqué de communiquer avec les habitants au Groenland ?
Oui. Mais ma chance, c'était d'être avec Max, qui est complètement intégré dans le village, qui parle le groenlandais. Et une fois, pendant qu'on y était, on s'est fait inviter, puisque je suis allé avec lui, à un anniversaire. Donc ça m'a permis de rentrer une fois chez des habitants du village. Mais sinon, ils sont chez eux et on est des étrangers qui passent par là. Ils n'ont aucune raison d'avoir des relations particulières avec les gens. Globalement, je ne les intéressais pas beaucoup. Et si vous passez là-bas dans les rues du village, vous ne les intéresserez pas beaucoup. Ils sont chez eux, ils vivent leur vie et puis point. Et quant aux Groenlandais, oui, c'est tellement compliqué que je n'ai pas essayé très longtemps. C'était plus facile d'essayer de parler en anglais que d'essayer de maîtriser deux, trois mots de groenlandais. Ouais. Alors si, par contre, avec les enfants, comme c'était les vacances scolaires, les enfants étaient tout le temps dehors, a fortiori parce que la télé est en groenlandais de l'Ouest et qu'ils ont du mal à le comprendre, puisqu'eux, ils parlent finalement une espèce de patois de l'Est. Et dès qu'ils me voyaient dehors, que je sortais mon carnet, ils venaient, ça les amusait. Et tout. Bon, ils m'ont renversé mon encre une fois et tout, mais bon, c'est... Mais la nuit tombe très vite là-bas, quelque chose comme 18 heures. Et c'est arrivé que je termine des croquis à la lumière d'un enfant qui avait son portable et qui m'éclairait le carnet de croquis. Donc j'étais une attraction pour les enfants. Mais les adultes, ils vivaient leur vie tranquille. Et bon, voilà. Mais non, c'était chouette. Puis du coup, on a eu une petite intervention à l'école aussi. Max, une après-midi, leur a proposé d'aller dessiner à l'école. Et c'était un bon moment avec un de ses chiens.
Vous avez écrit le livre en 2 ans, vous avez dit ? Est-ce que vous comptez le voyage avec ou pas du tout? Il a duré combien de temps le voyage?
Ah, le voyage était relativement court parce que j'étais chez Max, comme il a un stit, il était sur ses vacances scolaires. J'étais 2 semaines sur place,
okay.
2 semaines intensives, mais c'est sûr que j'aurais aimé pouvoir y rester plus longtemps ou y retourner. Bon, par la suite, il y a eu le Covid, les confinements et tout. Voilà, j'ai compris que ça allait être... Non, je compte pas forcément le voyage. En fait, quand je dis 2 ans, c'est à la louche. Hein. C'est peut-être 23 mois, mais c'est peut-être 28 mois, je sais pas trop. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que pour lui montrer l'avancement du travail, je lui ai envoyé des photocopies. Internet est tellement cher là-bas que ça lui aurait coûté très cher que je lui envoie des fichiers par mail ou par... Voilà, donc ça mettait 3 semaines, 1 mois à arriver, mon courrier. Donc j'attendais. Donc, pendant ce temps-là, je faisais autre chose. Mais 3 fois, comme ça, je lui ai envoyé un courrier qui a mis 3 semaines à arriver.
Et du coup, lui, il a pu recevoir le livre de la... Il est ou pas?
Oui, il l'a eu. Ouais.
Ah!
Il l'a eu.
Il a eu quoi comme réaction de savoir qu'il est dans un livre et qu'on lui a raconté sa vie, etc.
Il est tellement loin de tout ça que ça n'a pas été une énorme émotion. Il a vu le travail se faire, tout ça. Mais en une phrase ou deux, c'était réglé. Oui, bon, bravo, c'est bien, je vois que le livre est sorti, je comprends, Je prends la mesure de tout le travail que ça a été pour toi. Puis après, dans la suite du mail, il m'a parlé de sa vie, quoi. Mais voilà, il l'a montré à l'école. Mais les enfants, ça les a pas intéressés plus que ça, parce que c'était leur vie. Leur vie, ils la connaissent, quoi. C'est leur quotidien, donc bon, pour eux, ça tombe un peu à plat. Bon, après, c'est l'écho que j'ai eu, hein, j'étais pas là-bas. Donc non, Max a validé le livre et ça lui va. Après, voilà, le fait qu'il y ait un livre sur lui, ça change pas sa vie, hein. C'est un détail. Voilà.
Est-ce que vous avez une chose que vous avez particulièrement aimée dans l'aventure d'avoir fait ce livre ou même dans le fait que vous avez fait cette expérience là-bas? Enfin, je ne sais pas si j'ai bien expliqué.
Si. Évidemment, faire le livre sans aller là-bas, juste à partir de photos et de quelques visios avec quelqu'un qu'on ne voit jamais, ça aurait été extrêmement frustrant et je ne l'aurais pas fait. Là, ce qui faisait la valeur de la chose, c'était de pouvoir, même en un temps court, s'imprégner
de le vivre.
Voilà. Moi, j'ai besoin de vivre les choses pour pouvoir les restituer avec le plus de sincérité. Pareil pour la Namibie. Je ne pouvais pas faire ce livre sans y aller. C'était vraiment ça l'élément primordial. C'était vivre les choses, les ressentir et avoir envie de les transmettre, quoi, de les restituer dans le livre et de les transmettre le mieux possible.
Est-ce que vous avez un voyage que vous avez préféré grâce à la BD ?
Non, c'est pas évident. J'ai adoré la Namibie, d'être chez les Himba. En plus, bon, là, c'était vraiment 6 semaines, donc il y avait vraiment une toute autre imprégnation. J'ai adoré ce voyage au Groenland. Après, j'ai pu faire des voyages, c'était pas forcément en lien avec des livres, mais en Indonésie, par exemple, où il y a pile un an, là, j'étais au Cambodge. Mais là, c'était pas pour faire de la bande dessinée, c'était pour aider des auteurs locaux à développer leur projet de bande dessinée, parce que la bande dessinée n'existe pas au Cambodge. Et j'ai adoré retourner au Cambodge. J'étais allé une première fois il y a quelque chose comme 23 ans. Et là, j'avais vécu une aventure tellement forte que ça a été le sujet de mes deux premiers albums. Donc il y a toujours un lien un peu avec le voyage, l'air de rien. Que ce soit du récit de voyage ou voilà, un récit de vie comme l'histoire de Max ou presque un livre ethnographique comme Rujimba. J'avoue que si je peux avoir un lien avec un voyage, j'aime bien l'idée. Ouais. Mais tous les voyages que j'ai pu faire m'ont plu. Je suis allé en Chine aussi avec... on était 10 dessinateurs pendant un mois. Des carnetistes, à faire du carnet de croquis. Donc ça, c'était passionnant. Je suis preneur de toute nouvelle expérience. Et j'aime bien que ça me tombe dessus comme ça, de manière totalement inattendue. On ne sait jamais quand ça va arriver, si ça doit arriver, si ça arrive. Mais ouais, j'aime bien avoir des propositions de cet ordre-là. Je n'ai pas toujours dit oui à tout ce qu'on m'a proposé. On m'a proposé un livre sur les Mentawai, les hommes fleurs là, qui vivent sur une île d'Indonésie. Mais pour diverses raisons, je le sentais moyennement, le projet, puis c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Puis voilà, enfin, faut choisir, c'est ça qui est bien.
Et si vous avez un mot pour décrire Sermilik, ce serait lequel?
Juste en un mot?
Oui, en un mot. Ou trois mots. Wow.
En un texte. Bon, allez.
Un mot, peut-être, je dirais intensité. Parce que je trouve que c'est vraiment ça qui ressort, à la fois de mon expérience de voyage, mais de ce que je comprends de ce qu'est la vie de Max aussi. Ce qui est fou et fort là-bas, c'est l'intensité de tout. Mais aussi bien dans l'extraordinaire que dans le terrible ou le tragique. C'est vraiment les montagnes russes. Vous avez lu le livre, donc la première séquence, la séquence d'introduction, on le voit sur son traîneau. Il vient de vivre une belle excursion, il est bien, il est au soleil, il rentre au village, les chiens sont contents, ils vont tout droit sur la banquise. Tout d'un coup, il s'arrête pour ramasser un truc. Il amarre mal son traîneau, le traîneau s'en va sans lui en le blessant. Donc il passe du paradis à l'enfer en une fraction de seconde. Et voilà, tout est comme ça là-bas. Tout est intense, très fort, mais toujours avec un point de bascule. On passe très vite d'une situation merveilleuse à du tragique. Ça peut être très fort dans les deux sens, en fait. Donc, bref, je dirais intensité, mais ça pourrait être d'autres mots. Et vous diriez quoi en un mot?
Froid.
Ça aurait pu aussi, oui. Oui. C'est une donnée qui parcourt tout le livre, de toute façon, sur les 200 pages, c'est clair. Aventure, oui. Chien, bah oui, ils sont là, oui, c'est vrai.
Donc, est-ce que vous avez gardé des amis au Groenland et qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle géopolitique, voilà. Est-ce que le Groenland est à vendre ou pas?
A priori, non, et de moins en moins. Enfin, simplement le fait que tout d'un coup, la question se pose. Eux, ils prennent position, justement, en disant non, on n'est pas à vendre. Peut-être même que ça pourrait avoir du bon s'ils réussissent à échapper aux griffes des États-Unis en les amenant vers une sorte d'indépendance par rapport aux Danois. Parce que finalement, ils sont toujours sous une espèce de domination, de cloche, comme ça, danoise. Après, moi, j'ai pas de contact. Le seul contact que j'ai là-bas, c'est Max. C'est des contacts un peu épisodiques. Et même, je me rappelle, on parlait déjà de ça à l'époque où j'y étais, en 2019. Lui, à la limite, devenir américain, ça l'intéressait pas. Il voyait pas le... Enfin, c'était pas un sujet pour lui. Ça... À la limite, il disait pourquoi pas. Donc, bon, ça paraît bizarre, mais je pense pas que ce que lui vit au quotidien dans son petit village de l'Est reflète ce que pense l'ensemble du peuple groenlandais, particulièrement à l'Ouest. Bah c'est vrai que quand on regarde une carte, on comprend que ça attise des convoitises, particulièrement géopolitique. C'est pile à mi-chemin par rapport aux États-Unis. Enfin, si on regarde une map monde plutôt qu'un planisphère, en fait, on comprendra mieux que, en fait, le Groenland est pile entre eux et la Russie et la Chine. Et puis c'est vrai que avec le réchauffement climatique, la banquise se dégèle, ça ouvre la voie du Nord. Enfin, il y a des enjeux comme ça qui commencent à apparaître. Ils découvrent des tas de métaux rares, de terres rares, de minerais. Donc si ça dégèle, ça va libérer tout ça. Enfin, bon. Donc c'est un peu inquiétant parce que c'est un tout petit peuple d'une grosse cinquantaine de milliers d'habitants qui ne pèse rien face à un géant, quel qu'il soit, a fortiori les États-Unis. Je pense que si Donald Trump décide de s'accaparer le Groenland, il n'aura pas de difficulté à faire. C'est juste le reste du monde qui va réagir, on ne sait pas comment, mais il peut régler ça dans la journée, je pense. Enfin, techniquement parlant, physiquement. Donc ouais, c'est un peu inquiétant, mais que peut dire un si petit peuple de 50 000 habitants ? Enfin, ils font pas le poids, quoi. Personnellement, ça me rassure pas énormément. Ben oui, je trouve ça triste, ouais. D'attirer des convoitises comme ça, alors que c'est juste un peuple posé à un endroit géographique qui demande rien à personne. Et on vient leur dire que c'est même pas eux qui sont intéressants, c'est leur île. C'est vraiment faire comme s'ils n'existaient pas, en fait. Et s'il fallait déplacer les populations et les envoyer au Canada, en Alaska ou dans... Je pense que ça dérangerait personne. Enfin, bon, c'est pas rassurant.
Est-ce que vous avez déjà pensé à faire une BD ou dans vos BD à parler de tout ce qui se passe, par exemple au Groenland, en Amérique, enfin le fait que
dénoncer
politiquement tout ce qui se passe.
Politiquement non. D'abord parce que la politique ça se passe vite et la bande dessinée c'est vraiment du temps long. Vous voyez, quand on met 2 ans à faire un album. Aujourd'hui, ça va. La réalité géopolitique va à une telle vitesse qu'on peut pas suivre. Ou alors, faut faire de la BD de reportage sur un format court. Et il y a une revue, il y a la revue dessinée qui est vraiment une très bonne revue de reportage en bande dessinée. Donc, ça peut se faire, mais ce sera plus sur du reportage de long cours, de l'enquête. On parlait des algues vertes tout à l'heure. Voilà le fruit de plusieurs années d'enquête, de recherche, plutôt que de réagir à chaud. Ce qui va bien faire le boulot, c'est le dessin de presse. Vous en avez sans doute déjà vu. On peut faire en quelques heures un dessin qui réagira à chaud à l'actualité, quitte à ce que la semaine suivante il soit périmé, mais c'est pas grave. Le but, c'est. Enfin, vous avez tous déjà vu des journaux, il y a toujours des dessins dedans. Mais voilà, mais en bande dessinée, c'est plus compliqué. Pour prendre position, vaut mieux choisir un sujet un peu plus étalé dans le temps, comme par exemple dans Le Vivant à Vif. Le Vivant à Vif, il y a une prise de position. Voilà, le livre parle de la crise de la biodiversité. Donc ça dénonce des choses quand même malgré tout. Mais on essaye de ne pas faire juste un article, en fait. Voilà, c'est un livre. Donc on déploie une autre architecture que simplement dans un article ou un dessin de presse. C'est un peu le support qui veut qu'on ne se lance pas dans la politique. Mais ça existe. Hein. Mais c'est en général des albums a posteriori. Vous en avez sur... les liens entre Sarkozy et Kadhafi, vous en avez sur Cahuzac, je ne sais pas si ça vous parle. Comment on pourrait résumer ça? C'est un ministre dont on a découvert qu'il avait des comptes en Suisse, enfin qu'il avait une drôle de façon de gérer l'argent, de gérer son argent, de ne pas le déclarer. Enfin, voilà, il n'était pas très exemplaire. Donc il y a pas mal de bandes dessinées qui reviennent sur des faits politiques ou sociétaux. Vous avez quelqu'un comme Davodo qui s'est intéressé aux luttes sociales. Ben voilà, on parlait des algues vertes. C'est une journaliste associée avec un dessinateur qui a enquêté sur les marées d'algues vertes en Bretagne. Ça vous parle ou... Eh bien, c'est dû à l'élevage industriel, particulièrement des cochons qui rejettent, ou à l'agriculture intensive en Bretagne qui rejette beaucoup de nitrates dans les rivières qui finissent dans la mer. Ça nourrit des algues vertes en telle quantité qu'elles se retrouvent en masse sur les plages. Et en pourrissant, elles dégagent un gaz mortel. Donc il y a eu des animaux qui sont morts d'abord en marchant dans ces algues. Parce qu'en marchant dans ces algues, ça fait sortir les gaz des masses d'algues. Puis il y a un jogger qui est mort, puis le cheval d'un cavalier. Enfin bon, bref, il y a toute une affaire comme ça. Mais qui était complètement mise sous cloche par tout le lobby agro-industriel de Bretagne. Et cette journaliste s'est heurtée à des très fortes résistances pour faire sortir cette affaire au grand jour. C'est une vraie affaire, mais voilà, c'est passé par le biais de d'abord un reportage radio, puis une bande dessinée. Donc ça existe, ça se trouve, mais pas à chaud sur la politique du moment qui sera plus la même le lendemain ou la semaine suivante, quoi. Mais je vous encourage à vous y intéresser, il y a plein de choses passionnantes. Hein. Et justement, c'est le moyen de... Ben, on parlait d'algues vertes, il y a aussi une bande dessinée qui est sortie sur les algues, mais tout ce qu'on peut faire de formidable avec les algues. les manger, les composter, faire de l'engrais pour l'agriculture, faire du fourrage pour le bétail. Il y a mille choses possibles à faire avec les algues, mais c'est méconnu. On ne s'y intéresse pas spécialement, alors qu'elles sont là. Il y a juste à se plonger dans le sujet. Donc, voilà, vous pouvez aussi trouver ça en bande dessinée. Donc reportage documentaire, ouais, ça existe. N'hésitez pas à aller dans des bibliothèques, des CDI ou des librairies et à demander aux libraires ou aux bibliothécaires à vous faire conseiller selon ce qui vous intéresse. Il y a plein de choses passionnantes à découvrir. Moi, en tant que lecteur, je me régale. Hein. Je peux que vous encourager à faire pareil. Et tous les sujets sont abordés, on trouve de tous les sujets, hein, franchement.
Et voilà, c'était la rencontre avec Simon Hiro sur Studio ZEF avec le lycée horticole de Blois. Merci de nous avoir écoutés.